Il est juste 3h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris. Vous êtes sur Radio France Internationale.
Édouard Dupenoit.
Et nous sommes ensemble pour une première édition africaine qui commence au large du continent, dans l'océan Indien, où l'on prépare la 5e réunion de la Commission Madagascar, Maurice, les Comores, nombre de pays africains attendus à Antananarive la semaine prochaine. Est-ce que la France doit y être représentée via Mayotte? Hors de question, dit-on à Moroni, manifestation hier dans la capitale. 2 ans de guerre sans pitié et l'entrain toujours belliciste des deux généraux soudanais Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, qui livrent chacun leurs imprécations et leurs menaces contre le camp adverse. Un tout premier déplacement pour Fornia Singbe à Kinshasa, le président togolais, nouveau médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'est du Congo. Il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi. La ville de Goma, proprement dite, et le M23 qui exige que la MONUSCO, mission de l'ONU, respecte de nouvelles règles d'engagement sur le terrain, qu'elle signe un protocole d'accord avec le groupe armé, ce qu'elle n'a pas le droit de faire à l'heure actuelle. Nous sommes aussi à Madagascar dans ce journal pour interroger les limites de l'intelligence artificielle et de ses relations complexes avec le travail des artistes. Les pays de l'océan Indien préparent donc le futur sommet de leur organisation prévu dans une semaine à Madagascar. Cette zone du globe, devenue ces derniers mois, à son corps défendant, un point géopolitique crucial, route maritime où se croisent les navires qui redoutent le large du Yémen, où les États-Unis renforcent aussi leur présence militaire, signe de l'importance qu'elle a acquise. Le président français Emmanuel Macron prévoit d'y passer quasiment une semaine à compter de lundi. Il se rendra notamment à Mayotte, dévastée il y a quelques mois par le cyclone Chido. Mayotte, où s'est posée la question suivante, est-ce que l'archipel doit être reconnu comme une entité française au sein de la Commission de l'Océan Indien ? Plusieurs partis politiques comoriens organisaient hier un rassemblement à Moroni sur la place de l'indépendance. À leurs yeux, Abdallah Zembaba, il en est absolument hors de question.
Pour les manifestants, le message est clair, Mayotte est comorienne et ne peut pas siéger à la CEOI comme territoire français. Mohamed Bonjoin, président du comité maori, milite pour le retour de l'île dans l'Union des Comores.
Nous ne voulons pas que demain Mayotte intègre la CEOI sous son propre nom et comme entité distincte, alors que l'île fait déjà partie de l'organisation à travers son appartenance à l'Union des Comores. Cela, nous le savons tous. Vous savez que nous sommes dans notre bon droit et quand on a raison, on finit toujours par obtenir gain de cause.
Présent à la manifestation, Maître Ibrahim Alim Zimba invite à suivre l'exemple de Maurice face au Royaume-Uni et à revoir la stratégie vis-à-vis de Paris.
La diplomatie bilatérale.
La diplomatie bilatérale a montré ses limites. Il est temps de changer de cap. Mettons fin à cette coopération économique trompeuse. Instaurons uniquement des relations consulaires. Fermons l'ambassade française et ses antennes ici. Et procédons de même avec notre ambassade à Paris.
Au sein de la Commission de l'Océan Indien, chaque décision requiert l'accord de tous les membres. La position des Comores suffit donc à elle seule à geler toute tentative d'intégration de Mayotte dans la COI comme territoire français. Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
Ce rassemblement a aussi été l'occasion d'évoquer une rumeur qui s'est répandue ces dernières semaines, celle d'une éventuelle base militaire française à Mayotte, rumeur que l'ambassade de France à Moroni a déjà fermement démentie. Les Nations Unies se disent très inquiètes de la fragmentation possible du Soudan. Le porte-parole du secrétaire général réagit à l'annonce par le général Emeti de la formation d'un gouvernement parallèle. Stéphane Doudjarik estime que l'intégrité territoriale du Soudan est une condition fondamentale pour espérer parvenir à résoudre le conflit. Le 15 avril, anniversaire de cette guerre ouverte il y a 2 ans, a été l'occasion pour les deux belligérants de redoubler d'ardeur dans leurs menaces. Alors qu'une vingtaine de pays et d'organisations se réunissaient à Londres et ont promis d'œuvrer pour la paix, les généraux Burhan et Emeti accélèrent encore sur le sentier de la guerre. Ouda Ibrahim.
Dans un discours enflammé, le général Abdel Fattah al-Burhan affirme « Il n'y a pas de place au Soudan pour celui qui s'adresse aux Soudanais depuis l'étranger parlant au nom du peuple. Sans le nommer, il parle de son ennemi, le chef des FSR. » Toujours en désignant le chef des forces de soutien rapide, il considère que le pouvoir et la légalité au Soudan reviennent à celui qui résiste, combat et défend la patrie, pas à celui qui complote au service de certaines ambassades avant de fuir. C'est fuyant part, poursuit-il, ne mettront plus jamais un pied au Soudan. Quant au général Mohamed Hamdan Daglo, Hameti, il a brandi à nouveau la menace d'un gouvernement parallèle. Ce général s'est adressé à l'opinion publique moyennant un communiqué diffusé sur le réseau Telegram. Il affirme la formation d'un gouvernement soudanais d'unité et de paix issu de la coordination civile la plus large et qui représente le vrai visage du Soudan. Toujours selon le communiqué, ce gouvernement se chargera de tous les Soudanais, y compris ceux qui ne sont pas dans les zones contrôlées par les FSR. Il ne donne pas plus de détails sur la composition du gouvernement.
Autre chiffre encore sur cette guerre sanglante, la Croix-Rouge qui révèle que 8000 personnes ont été portées disparues au Soudan. Rien que sur l'année 2024, chiffre extrêmement sous-évalué, dit le CICR, puisque ce ne sont que les cas qu'il a pu recenser directement. Un très bref passage à Kinshasa pour une toute première prise de contact. Le président togolais a passé quelques heures hier après-midi dans la capitale de République démocratique du Congo. Il s'y est entretenu avec son homologue Félix Tshisekedi. Fornia Singbe, tout juste nommé médiateur de l'Union africaine pour la crise qui secoue l'est du Congo et où Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le groupe armé du M23. Correspondance Pauline Azidi.
Le président togolais, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, est arrivé vers 16h30 à l'aéroport de Ndjili. Il s'est directement rendu à la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président Tshisekedi pour une première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination officielle de Fornia Simbe comme médiateur de l'Union africaine. Un tête-à-tête de 2 heures dont rien n'a filtré, confie une source à la présidence congolaise. Pas de déclaration à la sortie. La RDC prend acte de cette désignation et on espère que cela va rapidement mettre fin au cycle de violence, fait-on savoir à Kinshasa. Fornia Simbe a quitté la capitale dans la soirée. C'était surtout une prise de contact pour celui qui hérite d'un dossier complexe où il n'est en plus pas le seul à s'occuper de la médiation, puisque le Qatar, après avoir organisé en mars une rencontre entre les deux présidents congolais et rwandais, anime les discussions entre le M23 et Kinshasa et que les deux régions est-africaines et Afrique australe ont elles nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où il est 4h37, une heure de plus à Goma, on en vient à l'est du Congo proprement dit, où les relations se tendent encore davantage entre la mission de l'ONU sur place et l'AFC M23 qui contrôle notamment cette capitale provinciale du Nord Kivu. Ce groupe exige désormais de signer un nouveau texte avec la MONUSCO, un protocole d'accord qui définirait précisément ce que les soldats onusiens ont le droit de faire sur le terrain. Une demande à laquelle la MONUSCO ne peut pas accéder en l'état actuel si l'ONU ne change pas les règles de son mandat, Patient Ligodi.
L'AFC M23 considère la MONUSCO comme une force vaincue. Elle rappelle que les casques bleus avaient pris part au combat pour tenter d'empêcher la chute de Goma. Face à l'avancée de l'AFC M23, ils avaient déployé une opération dénommée Springbok 3. Le dispositif des casques bleus comprenait notamment une force d'intervention rapide, un bataillon des réserves, un bataillon de déploiement rapide, des forces spéciales et une batterie d'artillerie. Mais ces efforts n'ont pas suffi à stopper l'avancée de l'AFC M23 appuyée par les forces rwandaises. Les affrontements avaient coûté la vie à 3 casques bleus et blessé au moins 37 autres. Aujourd'hui, le rapport des forces s'est inversé. Les mouvements de la MONUSCO sont étroitement surveillés et limités par l'AFC M23. Et ces derniers demandent désormais un accord écrit définissant la nouvelle posture de la mission dans les zones qu'ils contrôlent. Des sources onusiennes ont confirmé à RFI que l'AFC M23 pousse depuis plusieurs semaines à la signature d'un mémorandum d'entente. Mais la MONUSCO rappelle qu'en l'état actuel, elle ne peut pas accéder à cette demande. Pour engager une interaction formelle avec un groupe armé sous sanction, il lui faut une autorisation spécifique issue d'un mandat révisé du Conseil de sécurité. Or, ce mandat n'a pas encore été modifié.
Patient Ligodi, à propos encore de ce conflit et de ses conséquences internationales, on apprend que le club du Paris Saint-Germain et le Rwanda ont renouvelé pour 3 ans leur accord commercial. Certains maillots de l'équipe parisienne affichent le logo Visite Rwanda pour promouvoir le tourisme dans le pays. Plusieurs associations avaient demandé au PSG, mais aussi aux autres clubs internationaux qui ont noué ce partenariat avec Kigali, d'y mettre fin pour dénoncer le soutien que le Rwanda apporte au M23. Le ministre des Affaires étrangères sud-africain Ronald Lamola vient de conclure une visite de 2 jours en Russie, où il a pu s'entretenir avec son homologue Sergueï Lavrov. Dans un communiqué, le ministère sud-africain souligne, je cite, les liens diplomatiques durables qui existent entre les deux États. La guerre en Ukraine était bien sûr au cœur des échanges. Pretoria réaffirme la nécessité de voir une cessation immédiate des hostilités pour ouvrir la voie à une solution négociée. L'Afrique du Sud continue d'afficher sa volonté de dialoguer avec Moscou et avec Kiev. Elle doit recevoir la semaine prochaine une visite officielle du président ukrainien. À Madagascar, l'intelligence artificielle prise en traître est pliée au désir de l'artiste. On vous propose maintenant de découvrir le travail de Thierry Niaïn Irimbouang, artiste plasticien, lauréat du prestigieux prix Paritane. Il a eu l'idée de se servir de l'IA pour recréer des images de la grande île de son enfance, mais il est rapidement tombé sur un os. L'IA, pour produire une image, elle n'invente rien, elle ne fait qu'agglomérer et recomposer ce qu'elle trouve dans ses insondables bases de données. Des bases qui sont issues en fait de l'imaginaire occidental, qui ne montre donc qu'une infime partie de la réalité malgache. Alors l'artiste a décidé de lui en apprendre davantage, Sarah Teto.
Grandir entre quatre murs.
Thierry Niaïn Irimbouang aime narrer sa culture malgache, celle qui lui a tant manqué quand il a quitté la grande île pour vivre ses rêves en France. Les rideaux brodés de la maison de sa grand-mère, les repas pris sur le sol entre cousins dans les gamelles en métal. L'artiste raconte sa malgachéité par des textes, des images réelles ou créées numériquement grâce à l'intelligence artificielle.
En fait, ce que j'apprécie justement, c'est le contraste qu'il peut avoir entre cet outil qui est très contemporain, très actuel. Et à côté de ça, j'aime bien le questionner en fait, les limites de cet outil, dans la question de la représentation. Parce qu'en fait, la base de données qu'utilisent les IA, c'est une base de données qui est plus ou moins libre. Ils piochent un peu dans n'importe quoi. Sachant que déjà, à Madagascar, historiquement, il y a quand même une sorte de lacune en termes de représentation, parce que les représentations sont biaisées par des biais coloniaux, on va dire. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que l'IA connaissait de Madagascar. Et moi, à travers mes expériences, comment je pouvais convoquer cet outil pour parler de Madagascar.
Et le constat, selon l'artiste, c'est que l'IA ne connaît pas Madagascar. Pas bien, en tout cas.
Elle va agglomérer plein d'informations. C'est justement moi, avec mes expériences, parce que j'ai vécu à Madagascar, avec les prompts, c'est-à-dire les descriptions très détaillées que j'ai lui apporter, que l'IA, il va recomposer, halluciner, en fait, une sorte d'imagerie pseudo-malgache. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est moi qui lui insuffle mes souvenirs de mon intimité, mais qui, dans un sens aussi, parle à beaucoup de malgaches.
Des photos créées par l'IA, rematérialisées ensuite sur carton, recouvertes d'un papier de soie, comme un voile, sur ses souvenirs, le tout brodé à la façon des rideaux de sa chère grand-mère. Sarateto Antananarivo RFI.
On en vient enfin à la Ligue des champions de football en Europe qui livre ses affiches pour les demi-finales. Vous avez peut-être vécu hier soir sur RFI la défaite du Real Madrid face aux canonniers d'Arsenal de 2-1. Les Anglais retrouveront le Paris Saint-Germain le 29 avril prochain. Tandis que l'Inter Milan s'est fait secouer à domicile par le Bayern Munich, ce qui n'empêche pas les Italiens de poursuivre l'aventure. Sofiane Amazian, grâce justement à un ancien de l'écurie bavaroise.
Benjamin Pavard se souviendra longtemps de cette soirée d'ivresse à Giuseppe Meazza. Le champion du monde français, cadre du Bayern entre 2019 et 2023, a marqué face à son ancien club. Vainqueur 2-1 à l'aller, les interistes ont été coupés dans leur élan par l'ouverture du score bavarois signé Harry Kane. Mais les locaux ont réagi coup sur coup. Lautaro Martinez, opportuniste sur coup de pied arrêté, puis Benjamin Pavard de la tête au point de pénalty. Premier but de sa carrière à l'Inter pour le défenseur central qui tombe à pic. Score final 2-2, le Bayern a égalisé en fin de match en 20. L'Inter, finaliste malheureux en 2023, retrouve les demi et le FC Barcelone. Eux ont attendu 16 ans pour atteindre de nouveau le dernier carré de la Ligue des Champions. Arsenal fait de nouveau partie des grands d'Europe, qualification nette et sans bavure face au tenant du titre, le grand Real Madrid. Prudent au Santiago Bernabéu après leur succès 3-0 la semaine dernière, les Gunners sont facilement éteints, les velléités adverses, les coéquipiers du milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ouvre même le score par Bukayo Saka d'un beau piqué. Le but de la révolte de Vinicius Junior ne change rien car Gabriel Martinelli enterre les espoirs madrilènes en fin de match. Victoire 2-1 sans contestation. Prochaine cible, le Paris Saint-Germain.
Le football, c'est aussi l'annonce d'une disparition qui endeuille les Gabonais. La mort en Chine d'Aaron Boupenza, l'attaquant de 28 ans, tombé du 11e étage de l'immeuble où il résidait. L'ancien des Girondins de Bordeaux a porté à 35 reprises la tunique des Panthères. À Libreville, il est 4h44.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Dans 16 minutes, donc, le journal de 4 heures temps universel avec Gaëtan Plenet. Nous sommes encore ensemble pour parler de l'épidémie de chikungunya à La Réunion, journal de La Première, dans une dizaine de minutes. Double actualité agricole au Sénégal, avec l'ouverture toute proche de la campagne de l'anacarde. Et puis le dossier Afrique-Éco sera au Congo-Brazzaville, où la zone agricole protégée de Bouansa donne ses premiers épis de maïs. Mais avant de dérouler tout cela, le reportage du jour se passe à Bafretou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Disons d'abord à Abidjan, puisque c'est là que viennent de s'ouvrir les 7e RICA, les rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. Pour les circassiens, les circassiennes, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et si nous sommes précisément à Bafretou, c'est évidemment parce que le cirque, par essence, c'est un art qui se déplace. Ici, en l'occurrence, la troupe Ivoire Cirque Décalé, qui propose une création sur l'orpaillage clandestin, et elle vient la jouer là où doit naître l'un des plus grands projets aurifères industriels du pays. Reportage Frédéric Gara.
Ce matin, tous les villageois de Bafretou sont réunis devant l'école primaire sur la grande place. Face aux 5 acrobates qui jouent leur numéro intitulé « Les assoiffés du métal jaune », il y a aussi le préfet de Kani, un préfet qui met en garde contre les dangers de l'orpaillage clandestin et notamment de la pollution au mercure.
Vous savez, avec l'orpaillage clandestin, il y a des produits qui sont utilisés. Et ces produits sont dangereux.
La pièce, conçue par Herman Nikoko Yao, est faite de numéros de haute voltige et d'une bande sonore où l'on entend les témoignages d'orpailleurs clandestins évoquant leur calvaire.
Avec les jeunes, les quatre discutaient de ça, de leurs amis qui étaient à Abidjan sans emploi et puis qui ont fait tout à Bandoukou, qui sont venus 6 mois après, qui avaient changé de vie. Donc c'est comme ça que le questionnement est né. Après, on a eu plein de témoignages. Ouais, je pense que le projet, on l'a vraiment construit dans un esprit de sensibilisation. Parce que, en fait, c'est un fléau qui touche beaucoup de jeunes d'Abidjan. On ne sait pas d'où la richesse vient. Et ça a commencé à attirer beaucoup de jeunes aussi vers les régions comme Boundiali, Boafle. Donc, le danger que courent ces jeunes, à ne pas les encourager. Mais en même temps aussi, essayer de faire juste un petit rappel à l'État aussi, voilà, pour qu'il puisse aider vraiment ces jeunes-là.
Pierre Nguessan est le directeur pays de la société Montage Gold qui a permis cette délocalisation du festival de cirque pour sensibiliser enfants et parents de la région, là où doit naître le plus grand projet industriel aurifère du pays, le projet Conné.
Le gros problème qu'on a avec les enfants, c'est qu'ils se déscolarisent très vite. À partir du CM2, quand ils ont 11 ans, 12 ans, ils quittent l'école et ils viennent à l'orpaillage pour commencer à creuser. Donc nous voulons, avec le cirque, les amener à voir qu'il y a autre chose, les détacher de l'activité pour que, dès maintenant, ils se préparent à embrasser d'autres activités que l'orpaillage.
Un spectacle de sensibilisation qui parle aux oreilles d'Adama Koné, le chef du village de Bafretou.
Oui, c'est très très utile. Ça montre que vraiment c'est que le travail qu'on faisait avant ici, vraiment c'est pas normal. Bon, c'est ça qu'ils sont en train de faire pour montrer aux gens qu'on n'a qu'à collaborer ensemble.
Valérie Bonny, chargée de la communication du festival des RICA à Abidjan.
C'est là aussi qu'on voit que le cirque est adaptable. Là par exemple cette année aussi, on va à l'hôpital Mère et Enfants pour jouer pour les enfants qui sont malades. Donc c'est vraiment dans l'ADN d'Erika de délocaliser hors des salles pour faire connaître le cirque et le spectacle vivant.
Frédéric Gara, de retour de Bafretou, RFI.
Un reportage dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire que vous réécoutez sur notre application de podcast RFI Pure Radio. 5h48, ici à Paris, on en vient aux grandes lignes de l'actualité internationale de ce 17 avril et Giorgia Meloni qui est attendue aujourd'hui à Washington. La chef du gouvernement italien est pressée par Bruxelles de parler au nom de ses partenaires de l'UE sur les droits de douane. Dans ce contexte de guerre commerciale internationale et qui fait particulièrement rage entre les États-Unis et la Chine, le président de la Fed, la Banque centrale américaine, Jerome Powell, estime que cela va très certainement entraîner au moins une hausse temporaire de l'inflation. Résultat, Wall Street a clôturé en très nette baisse hier soir. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est à Paris aujourd'hui pour des discussions notamment sur l'Ukraine. Les négociations initiées par les États-Unis en vue d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou progressent très difficilement. Les entretiens devraient également porter sur la situation au Proche-Orient et le dossier du nucléaire iranien. L'armée israélienne annonce avoir transformé en zone tampon 30% de la bande de Gaza où elle poursuit son offensive. Israël a aussi exclu l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et pour ceux qui leur viennent en aide. C'est ce que dit l'ONG MSF, Médecins sans frontières. Au Congo-Brazzaville, les zones agricoles protégées commencent à porter leurs fruits. Il y a 4 ans, le gouvernement a décidé de sanctuariser plusieurs milliers d'hectares de terre dans diverses zones du pays pour y encourager une agriculture intensive et mécanisée, avec dans l'idée que les bons rendements seraient une source de revenus pour les agriculteurs, que cela encouragerait la transformation nationale des produits agricoles et donc que, in fine, ça diminuerait les importations. À Bouansa, dans la zone dédiée au maïs, c'est le dossier Afrique Économie de Loïcia Martial.
Dans la plaine de Bouansa, Les paysans de la zone agricole protégée, tous de vert vêtus, observent le travail de la moissonneuse-batteuse sur près de 60 hectares de maïs. La superficie étendue a été cédée par l'État aux agriculteurs de la région pour qu'ils y plantent la céréale. L'un d'eux, Alain Roger Mabika, a été désigné président de la zone agricole protégée. Il espère que les rendements progresseront avec les années.
Bien, ici nous n'avions produit que le maïs, rien d'autre que le maïs. En dehors du maïs, nous n'avons rien produit d'autre. L'estimation, on peut dire, déjà par hectare, tel que je vois là, par hectare nous pouvons faire au moins 3 tonnes. Et si nous prenons 3 tonnes par hectare, ça veut tout simplement dire que nous devons donc nous retrouver avec près de 180 tonnes que nous pouvions donc avoir ici. Et donc c'est pour nous une façon d'aider ceux-là qui font de l'industrialisation.
Après la récolte, le maïs est stocké dans un endroit bien protégé. Il sera ensuite vendu aux sociétés brassicoles et aux éleveurs qui en manquent souvent. À ce jour, les importations d'alimentation humaine et animale sont évaluées à 600-700 milliards de francs CFA. Près de 300 agriculteurs ont planté du maïs à Bouansa.
Nous produisons beaucoup ici, nous ne sommes pas des fainéants. Avec la main, nous travaillons et nous avons vraiment de la bonne production.
On plante le maïs, c'est pour nous soutenir. Ça nous aide, ça nous donne l'argent.
Les zones agricoles protégées ont déjà commencé à produire du manioc, des bananes, des tomates et du riz dans d'autres régions du Congo. Ce dont le président de la République s'est félicité à Bouansa.
Merci Mingi.
Merci de la façon dont vous avez suivi l'initiative lancée lors de la campagne électorale passée. Il faut qu'au Congo, l'agriculture aille de l'avant.
Merci Mingi.
À travers les zones agricoles protégées, les autorités espèrent lutter contre le chômage, contre la sous-alimentation et diminuer la facture des importations alimentaires. Loïcia Martial, de retour de Bouansa, RFI.
À Bouansa et à Brazzaville, il est 4h52. Une heure de moins à Dakar et l'actualité des matières premières, c'est peu ou prou le même sujet puisque l'on parle de la souveraineté agricole du Sénégal sur ses noix de cajou. D'ici deux semaines va commencer la campagne de récolte de l'anacarde et cette année, les autorités ont annoncé une batterie de mesures pour que les noix ne partent pas ou en tout cas ne partent pas trop à l'export, à l'état brut. L'idée, c'est d'en transformer toujours un peu plus dans le pays. Question de valeur et question d'emploi. Léa, Lisa Westerhoff.
Les défenseurs de la filière cajou ont-ils été entendus ? La campagne qui démarre fin avril s'ouvre en tout cas sous de meilleurs auspices. Après une année 2024 marquée par une mauvaise récolte, jusqu'à 70% de moins de cajou dû à de fortes chaleurs et une flambée des prix du fait de la petite quantité d'anacardes récoltées, l'État a décidé de prendre des mesures. Et d'abord, obliger les exportateurs à obtenir un agrément auprès des autorités. L'objectif, avoir une traçabilité de ces acteurs qui viennent principalement d'Inde et du Vietnam, respectivement les deux premiers producteurs de noix de cajou au monde, et régulariser ainsi le marché de l'exportation. Autre mesure, celle de taxer les exportations de cajou à hauteur de 32 francs CFA par kilo de noix brutes exportées. Les opérateurs de la filière réclament depuis longtemps cette taxe pour encourager la transformation de l'anacarde et éviter que tout ne soit exporté à l'état brut. L'argent récolté doit ainsi servir à accompagner le développement de la filière, financer aussi la prime à la transformation. 150 francs CFA seront versés pour chaque kilo d'anacarde transformé et exporter. Car la transformation, c'est le maillon faible de la filière cajou au Sénégal. Avec environ 2000 tonnes de noix de cajou brutes transformées chaque année, le secteur ne représente que 3% de la production nationale. Mais il ne demande qu'à croître, affirme le défenseur de la cajou, qui espère faire monter la transformation à 10% d'ici 2027, ce qui permettrait de créer des emplois cruciaux pour le pays. Pour l'heure, les 11 unités de transformation du pays emploient 3050 personnes. Enfin, dernière mesure, celle de sécuriser un stock de 6000 tonnes de cajou destiné aux entreprises sénégalaises de transformation. Du côté des opérateurs, c'est la satisfaction. Ne reste plus qu'à espérer que les récoltes cette année seront au rendez-vous. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La Côte d'Ivoire, elle aussi, s'attelle à transformer ses propres anacardes. C'était le sujet d'un dossier Afrique Économie que vous retrouvez sur RFI.fr. On en vient à l'actualité dans les territoires français de l'océan Indien et on parle exclusivement de la réunion avec nos confrères de la première. Cette épidémie de chikungunya qui a fait 6 morts depuis le début de l'année, pour l'instant elle ne provoque pas de surchauffe au centre hospitalier de Saint-Denis. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Le déclenchement du plan blanc a manifestement porté ses fruits, principalement du côté des ressources humaines, l'objectif étant d'éviter, autant que faire se pourra, une situation d'engorgement des services. Reportage Bruce Régent.
Le chikungunya, ça atteint pas que les patients, ça atteint aussi les soignants.
Au point que, selon le professeur Henri Vacher-Coppona, représentant des médecins du CHU, le nombre de soignants malades aurait pu faire dérailler l'hôpital.
On a eu entre 300 et 400 soignants qui ont été atteints par le chik depuis le début. Et il y a un moment où le système ne peut plus marcher parce qu'il y a plus de patients qui arrivent sur un hôpital déjà saturé. Les soignants qui sont eux aussi malades, ça pose un vrai problème.
Car pour la plupart, les patients chikungunyés qui arrivent ne souffrent pas que de ça et leur séjour a tendance à être en moyenne un peu plus long que celui des autres patients.
Comme le chikungunya déséquilibre les patients qui ont des maladies chroniques, ce qui a aussi augmenté, c'est le nombre de patients qu'il faut garder à l'hôpital. Une augmentation pas énorme, mais significative. Et par manque de lits, on n'arrive plus à l'absorber.
En revanche, l'admission aux urgences, ça reste gérable, dit le docteur Frédéric Nativel.
Nous avons, depuis 2-3 semaines, une augmentation de 10-12%. C'est quelque chose que l'on peut largement absorber.
Pour le chef du service, les quelques médecins de plus venus de l'Hexagone, les congés reportés et les opérations remises à plus tard, tout ça a soulagé les articulations de l'hôpital.
Donc on n'a pas eu de renfort supplémentaire, parce que ce n'est pas nécessaire, mais on a pu par contre compenser tous les absents.
Résultat, un nombre de patients redevenus admissibles dans la célèbre salle des brancards, ce qui, pour le moment, attention, rend la situation un peu moins pénible pour les malades, comme pour les équipes qui se plient elles aussi en quatre, mais pour les soulager.
Sur le terrain, des moyens supplémentaires ont également été déployés pour barrer la route aux chiques et donc aux moustiques, vecteurs et propagateurs de la maladie de l'homme courbé. En visite ce mardi dans la commune de La Possession, dans le Nord-Ouest, le préfet de la Réunion, Patrice Latron, a ainsi annoncé l'arrivée de nouveaux contrats PEC, parcours emploi compétences, pour renforcer les effectifs de la lutte antivectorielle, à la grande satisfaction du premier adjoint de la commune, Christophe d'Ambreville. Il est au micro de Priscilla Etève.
C'est une très bonne nouvelle pour le territoire communal et pour toute la Réunion. On a besoin d'un soutien réel de l'État et cette mesure-là va dans ce sens, c'est-à-dire soutenir le territoire communal pour lutter face aux défis qu'on rencontre. On a eu garance il y a quelques temps. On ne s'est pas encore relevé de garance qu'on est maintenant dans la lutte antivectorielle. Donc ça demande des moyens importants.
Et puis à Paris, l'Institut Pasteur organisait ce mardi un point presse sur la lutte contre le chikungunya et sur les outils innovants testés à La Réunion pour endiguer la propagation du virus, notamment l'utilisation d'un vaccin. Annabella Fayou est responsable de l'unité arbovirus et insectes vecteurs à l'Institut Pasteur. Elle est au micro de Tessa Groman.
Aujourd'hui, on va le tester en grandeur nature, puisqu'en fait, on est en pleine épidémie. Qu'est-ce qui se passe si on met en place en fait une vaccination pendant une épidémie? Donc, je pense que dans quelques mois, on aura des résultats qui vont être intéressants, qui vont nous être utiles aussi pour pouvoir arriver à gérer une épidémie de chikungunya, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des 11 territoires ultramarins où on a le moustique qui est présent quasiment partout. Il y a Aedes aegypti, Aedes albopictus, et donc ce sont des territoires où on a quasiment chaque année des cas autochtones de chikungunya, de dengue et parfois de Zika, et dans d'autres régions il peut y avoir aussi de la fièvre jaune comme en Guyane. Donc forcément c'est une actualité qui est toujours là, et on va utiliser l'expérience faite à La Réunion pour essayer d'améliorer la prise en charge et comment se préparer aux futures épidémies.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Benoît Ferrand. Bonne journée à vous. C'est la fin également de ces 30 premières minutes africaines sur la Radio du Monde, réalisées par Ryan Bois. Merci à lui, Pierre Pinto, à la rédaction en chef de l'information. Je salue particulièrement ce matin Arfang Sek. Vous nous avez écrit de Thiès au Sénégal. Vous saluez toute l'équipe d'Afrique Matin. Vous nous dites que vous êtes un fidèle auditeur de RFI. Un fidèle auditeur lève-tôt d'ailleurs, puisque à Thiès, à Dakar, à travers tout le Sénégal, il n'est même pas encore 4h du matin. Le journal, c'est dans une minute.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Namouri Dosso.
Macky Sall pourrait-il faire face à la justice sénégalaise? Un député a saisi le Parlement afin de poursuivre l'ancien président pour haute trahison. Après le scandale de la dette cachée, l'ancien dirigeant sénégalais doit-il rendre des comptes?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Couleur tropicale, Claudiciard.
C'est au cœur du FEMUA que Couleur tropicale célèbre ses 3 décennies au service des musiques afro. 2 heures de show en direct sur RFI. Ce jeudi à 19h, rendez-vous à l'INGS d'Abidjan pour le Boucan. Sur scène, Didi B, Nash, José, Baby Philippe. Pour le final, l'INGS deviendra la plus grande discothèque d'Afrique. Mouloukoukou DJ sera au platine. En deuxième partie, d'autres stars feront le show. Couleur tropicale à 20h10, temps universel, 22h10, heure de